Xavier va faire un petit point sur les résultats et on finira bien évidemment par le petit quiz. Xavier, est-ce que vous êtes en forme pour ce quiz ?
Le quiz, écoutez, j'ai pas trop révisé ce week-end. Voilà.
Le fameux, on change pas la tactique qui gagne. Ben Xavier, on reste avec vous pour les résultats en Terre Occitane ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, il s'est passé, je vous dis pas grand-chose parce que c'était un peu la remise à jour des calendriers avec tous les reports de matchs. Ça dure depuis un mois, cette histoire. Et ça fait qu'il y a pas mal de choses qui... pas mal de matchs qui sont reportés entre la coupe, les matchs en retard. Il va y avoir des matchs d'ailleurs cette semaine. Puisqu'il y a, si on peut voir par exemple un championnat en National 3, quoi, il y a des équipes qui ont 16 matchs, d'autres 14, d'autres 13. Hein. Donc, voilà, les classements, on ne va pas vous en parler aujourd'hui parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Mais on peut dire quand même qu'en National 1, par exemple, Rodez a perdu à Concarneau. En National 2, ben là, on va en parler tout à l'heure, vu que Tarbes a fait match nul contre Colomiers, ce n'est pas une bonne affaire pour Tarbes, une meilleure pour Colomiers, mais Tarbes, ils sont un peu dans le fond du classement, même là, ça va être très difficile pour eux. Et ensuite, en National 3, bien, on peut voir que le derby Castanet-Balma, bien que Castanet l'a emporté 1-0, un but de, je crois que c'est Boyes, hein, au bout de 20 minutes de jeu. Donc, Balma l'avait emporté au match aller 2-1 difficilement. Et puis là, c'est Castanet qui a pris sa revanche. Donc, au classement, bien là, par exemple, à National 3, bien, on peut voir que bon, Luzena, qui n'a pas joué ce week-end, d'ailleurs, le match a été reporté, bien, dernier avec 10 points. Narbonne, avant-dernier, 12 points. On retrouve le Rodéo à 13 points, mais par exemple, ils n'ont que 13 matchs, quoi. Alors que les autres, ils en ont 3 de plus. Castanet est à 15 points avec 15 matchs. Vous voyez, donc c'est très serré, tout est encore jouable, et ça va se jouer sur les matchs en retard. Il y en a des fois qui vont jouer, même, je me demande si c'est assez logique, il y en a qui vont jouer 2 matchs dans la semaine, pendant que les autres, ils vont en jouer qu'un. Donc sur la durée, ça risque de porter préjudice à certaines équipes, surtout celles qui ont des effectifs restreints. Voilà un peu ce qu'on peut dire, puisqu'il n'y avait pas de match de division d'honneur ce week-end. Et après, c'était la mise à jour des matchs en Régional 2, en Régional 3, etc. Donc voilà. Si il y avait la Coupe Occitanie, Coupe du Midi, Coupe Occitanie, on dit maintenant hein, Florian. Donc un peu la surprise, c'est par contre, c'est Porté qui est allé battre Golfech en Régional 1. 5-1 sur leur terrain, c'était le samedi 24 février, samedi. Hoche, Luc Primaube, ben c'est Luc Primaube qui est allé gagner Hoche à Hoche, 2-0. Ensuite, c'est assez logique, avec la victoire de la réserve de Colomiers 4-1 contre Pibrac, deux clubs de Régional 2. Et Lille-Jourdain, c'était l'Avernose contre Lille-Jourdain, justement, le club de Corentin Albertini qui a perdu 3-2 chez eux face à l'Avernose-Lerm. Donc voilà pour ces résultats de Coupe d'Occitanie. Le prochain tirage, je crois que c'est lundi prochain, je crois.
Ben voilà. Justement, merci beaucoup Xavier. Justement, petite transition, vous avez parlé de ce match de partout entre Tarbes et Colomiers. Florian, il me semble que vous y étiez. Est-ce que vous pouvez faire un petit compte-rendu de ce match où Colomiers aurait pu prendre la première place de la National 2 pour le coup ?
Alors effectivement, on a fait une entame de match très moyenne où Tarbes nous a posé des problèmes assez rapidement et malgré tout, on a la chance de mener au score. Derrière, on a la chance d'en mettre un second. Donc voilà. On était un peu moins bien sur ce match-là. Après, on ne peut pas en vouloir aux joueurs qui font un parcours assez exceptionnel. Et donc, du coup, on a pris la réduction du score de Tarbes est assez logique. Et sur un contre de 80 mètres, on prend un contre de 80 mètres. Et après, sur un exploit personnel, là, je crois que c'est Cherfi qui met un superbe but, un enroulé, lucarne opposé. Voilà, 2-2. Après, en seconde mi-temps, on a quand même dominé les débats. On tape 2 ou 3 fois la barre. Voilà, Tarbes a aussi eu une occasion sur la fin. Sur le match, je pense que le match nul est logique, mais après, en étant des fois, en étant moins bon, il faut savoir gagner ces matchs-là. Et là, ça ne s'est pas fait. Malgré tout, on prend un point, on avance. Et donc, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour cette longévité d'invincibilité. Donc en espérant qu'elle continue à Martigues ce week-end.
Eh bien, on espère. Et juste avant de passer justement à l'interview de Florian, dans la rubrique résultats, Xavier, j'ai hésité à poser cette question au quiz, mais je me suis dit, c'est Footpi qui a passé l'info, donc je vais la retirer. C'est Castelginest qui va jouer son premier match ce week-end en 2018. Ils ont tellement eu des reports, il y a eu tellement de reports qu'ils vont jouer leur premier match en 2018 ce week-end. Là, en fin de semaine.
C'est dire. Je ne savais pas.
Ah, voilà. Mais je ne sais pas s'il faut vous croire, Xavier. Donc, quand vous dites que vous ne savez pas, donc pour le coup, je me suis dit bon.
Non, oui, je ne savais pas.
Voilà, voilà. Mais pour le coup.
Vous auriez pu la poser.
Voilà.
Question. Mais je l'ai j'aurais posé, été éliminé. Vous savez
Je ne l'avais pas non plus.
Ah non.
Voilà. Mais j'ai préféré le dire maintenant pour assurer le coup. Voilà.
J'avais hâte de nous parler de cette histoire. Comme quoi. Les terrains, enfin les clubs maintenant qui n'ont pas de, c'est un problème, hein, mais les clubs maintenant qui n'ont pas de terrain synthétique, hein, ils peuvent pas jouer, c'est impossible. Et c'est, alors on dit ouais, mais c'était cette année, c'est parce que bon, c'est exceptionnel tout ça, mais on
chaque
se rend compte
que c'est cette année.
C'est, voilà, en fait, on se rend compte que chaque année il y a de plus en plus de problèmes à cause de ça. Donc voilà, les municipalités, elles arrêtent vite, elles mettent vite des arrêtés pour ne pas abîmer complètement les terrains et les bousiller jusqu'à la fin. Et donc voilà, on se retrouve dans des situations un peu inconfortables.
Je vous rejoins plus pour l'équité un peu du championnat. C'est après, voilà,
là, ça peut poser des difficultés. Certains clubs vont jouer peut-être 3 matchs, hein, même pas 15 jours. Quoi.
Et puis pour le coup, vous l'avez dit à juste titre, les classements, à l'heure où on se parle, ne veulent rien dire du tout.
Ça ne veut rien dire.
Voilà. Bon, Florian. À nous, peu après la nouvelle année, vous avez soufflé votre 33e bougie.
Déjà, merci de
le rappeler. Comme ça.
Il faut commencer comme ça, d'accord. Alors, je le saurai pour la prochaine. Mais moins que Xavier quand même.
Ah oui, moins que Xavier. Moi, je n'y dis pas, les bougies, elles sont cramées depuis longtemps.
Alors, vous avez commencé à Colomiers, vous êtes passé par les U15 nationaux des Fontaines, 2 ans à Niort, 10 ans à Colomiers, la plus longue histoire, et enfin Pibrac depuis 2015. Florian, qu'est-ce que vous évoque ce parcours déjà?
Beaucoup de fierté. Alors, ce n'est pas que 2 ans à Niort, parce que j'en ai plutôt passé 6 entre le centre de formation et après, j'ai eu la chance de côtoyer les pros là, sur la dernière année. Beaucoup de fierté. Voilà, je le considère pas comme un échec, parce que j'avais l'ambition d'être professionnel. À un moment donné, c'est que je n'ai peut-être pas fait les choses comme il fallait pour aller au bout. Donc voilà, j'ai pu rebondir à Colomiers avec le parcours qu'on connaît. Et ça aussi, j'en suis assez fier. Hein. Je ne suis pas tout seul, on était un gros groupe. Il y avait toujours eu des très très bons groupes à Colomiers avec Seb Baron, avec Christophe Pilon, Benoît Fernandez et Sécanté et toute la clique. Et ça a été le départ d'une histoire. Et aujourd'hui, je suis content que les jeunes prennent ce relais-là et continuent à mener le club vers les sommets. Donc beaucoup de fierté. Et j'ai eu la chance aussi d'être international algérien grâce aux origines de mon papa. Donc du coup, ça a été aussi un grand moment de découvrir un peu cet univers-là.
Une très grande fierté, j'imagine, d'avoir pu...
Une très grande fierté. Oui, bien sûr, une très très grande fierté de découvrir la terre de ses ancêtres, de son père. Et effectivement, une très très grande fierté de porter ce maillot. Ouais.
Alors, c'est la deuxième fois, Florian, que nous avons un gardien, puisque nous avions reçu Cyril Garcia pour la première édition d'Oxyfoot. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, vous, d'évoluer à ce poste? Parce qu'on dit souvent qu'être gardien, c'est un métier différent que celui de joueur de champ. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette tâche-là?
Alors, en fait, je me suis rendu compte qu'en passant à 13, les terrains devenaient beaucoup plus grands. Donc, du coup, j'avais pas forcément les qualités physiques pour courir devant, parce que j'étais attaquant. Mon père voulait pas que je sois gardien de but, donc du coup ça limitait les choix. Et puis finalement, sous la houlette de Sébastien Gélis, qui est bénévole au club de Colomiers, un peu en douce, sans trop le dire, il m'a pris, il m'a dit tu vas commencer la saison dans les buts. Donc voilà, on s'est lancé un peu comme ça. Et ce qui m'a plu, c'est cette responsabilité. On est le dernier rempart, donc on peut vite être coupable d'une grossière faute qui peut coûter cher, mais on peut aussi vivre des super moments qui permettent de pouvoir être à un moment donné aussi entre guillemets un héros sur un match, voilà, toujours avec humilité bien évidemment parce qu'on est 11, mais voilà, d'être à part un peu un poste unique, on se sert des mains, on se sert des pieds, beaucoup des pieds maintenant d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment tout ça, tout cette d'avoir le caractère aussi, c'est un poste vraiment où il faut du caractère, c'est un poste où, voilà, à responsabilité, il faut aussi les assumer et être extraverti un peu sur le terrain. Des fois, je l'ai même été un peu trop, et tout en restant dans la vie plutôt calme. Voilà, tout ça, c'était intéressant.
Alors, le fait d'avoir intégré le centre de formation de Niort, ça a été aussi une décision importante à prendre, que ce soit pour vous ou même pour votre famille, puisque vous étiez assez jeune.
Pour la famille, ouais, 14 ans. Oui, c'était une décision. Je voulais faire ça. Donc, du coup, ça, c'est quand la proposition est arrivée, on n'a pas réfléchi longtemps. Je pense que ça a été difficile pour ma maman, surtout à 14 ans, de voir son enfant partir. Mais c'est une école de la vie parce que vous vous retrouvez seul à 14 ans et il faut gérer l'éloignement, il faut gérer les responsabilités au quotidien qui vous tombent un peu dessus quand vous avez vous êtes malade. Alors même si on est quand même assez bien encadré dans les centres de formation, mais il faut aussi se débrouiller seul. Les études aussi qu'il faut pas laisser de côté. Il faut. C'est vraiment un mélange assez important et qui vous font gagner des années, mais alors à vitesse grand V.
Alors, si je ne me trompe pas, il me semble qu'à Niort, vous croisez la route de Christophe Jallet et Philippe Insberger, c'est bien ça ?
Oui, je croise la route de Christophe Jallet, qui me faisait rester des heures aux entraînements. Quand on dit que les footballeurs ne travaillent pas, il y en a beaucoup qui restent et qui travaillent. Donc, Christophe Jallet, ouais, des heures et des heures de coups francs, de pénalty, de centre, énormément. Et quand vous êtes troisième gardien, ben, vous restez, il n'y a pas le choix. Et Philippe Insberger, oui, une très, très belle rencontre. Son fils est le parrain de ma fille. Aujourd'hui, donc on peut aussi avoir des vraies amitiés dans le football. Donc j'étais un peu déçu de qu'il lui arrive ce qui lui est arrivé avec le FC Metz. Maintenant, c'est le foot qui veut ça. Mais de très belles rencontres. Il y en a eu d'autres. Hein, Christophe Marichez, entraîneur des gardiens du FC Metz aussi, avec qui j'ai encore des très bons contacts. Mais des très bons joueurs, des très bons joueurs.
Et puis Florian, il y a cette grosse page qui s'ouvre avec Colomiers en 2005. Vous rejoignez le club qui à l'époque est en DH, actuel R1. Ouais, personnellement, quelle est votre ambition lorsque vous arrivez au club à 20 ans
pour le club ? L'ambition, je suivais toujours les résultats. Quand j'étais sur Niort, je suivais les résultats. Mon père était entraîneur, donc forcément, j'étais toujours intéressé. Dès que j'avais l'occasion, je venais m'entraîner quand on avait des trous ou des choses comme ça. Donc l'ambition, une ville comme Colomiers se devait de au moins jouer dans la cour des villes comme Blagnac, qui à l'époque était en CFA2, toujours d'ailleurs en CFA2. Voilà, une ville comme Colomiers se devait d'avoir une équipe Fagnon au plus haut niveau, ou en tout cas rentrer dans les niveaux nationaux. Donc ça, c'était important. Et la rencontre avec le président Sacrisper, ça a été une rencontre très importante pour moi. Un, parce que je pense que si le club de Colomiers en est là aujourd'hui, on le lui doit, parce que c'est lui qui a été le premier à mettre ce projet en place. Et en plus, il m'a ouvert les portes de son entreprise que j'ai rachetée aujourd'hui. Donc du coup, ça a été une rencontre très, très importante. Et voilà, j'ai tout de suite eu l'ambition d'aller le plus haut possible avec Colomiers.
Et puis très vite, il y a les montées qui s'enchaînent, le CFA2 en 2007, le CFA en 2008, puis après 5 saisons pleines pour vous au 4e échelon national, vous avez à ce moment-là un vrai statut de pion essentiel, vous l'assumez pleinement ?
Oui, je l'assume pleinement, ça a toujours été dans mon caractère. Alors, la formation a toujours existé à Colomiers. Donc, quand on intègre des jeunes comme Adeoti, qui aujourd'hui est capitaine à Auxerre, ou des jeunes comme Thomas Barthier, ou des jeunes comme ça, qui sont encore dans le club, nous, on a ce rôle-là de les protéger. Et donc, j'ai été capitaine sous l'ère de Frédéric Pons pendant 3 ans. Après, William Prunier, qu'on a eu et avec qui on est monté en national, ne souhaitait pas que son gardien porte le brassard. Donc, du coup, c'est Aurélien Mazel qui l'a récupéré. Encore un grand joueur. Et donc, voilà, à partir de là, un gardien, c'est un poste à responsabilité. Et dans la vie du quotidien, j'avais ce rôle-là. J'avais. Avec Ibou, on était les deux joueurs à avoir fait toutes les montées. Et l'histoire du club, elle est aussi marquante là-dedans. Et on se devait d'accompagner les jeunes, de leur inculquer l'histoire. Parce que les joueurs, ils ne font que passer dans un club. Lui, le club, il restera toujours. Donc, c'est d'apporter tout ce qu'on peut aux jeunes et qui continuent ensuite à faire prospérer le club au plus haut niveau possible.
Vous avez évoqué un paramètre qui a quand même son importance, Florian. Vous, selon vous, est-ce qu'un gardien se doit... Est-ce que vous trouvez légitime qu'un gardien ait le brassard de capitaine, ou est-ce que pour vous, c'est un joueur de champ qui doit le porter, ou vous n'attribuez peut-être pas tellement d'importance à ça ?
Non, je pense qu'un c'est mon avis, mais je pense qu'un gardien de but peut largement porter le brassard. Aujourd'hui, de toute façon, on ne peut plus se permettre de parler aux arbitres comme on pouvait le faire il y a quelques années. Donc, je pense qu'un gardien de but peut porter le brassard. C'est un capitaine, c'est ce qui se passe sur le terrain, mais c'est aussi dans la gestion du groupe à l'extérieur, tout ce travail invisible où les jeunes qui sont plus en confiance vont venir vous parler, vont vous dire bah, tiens, il y a tel souci, on le gère comment, on avance comment. Donc c'est plutôt ça. Après, sur le terrain, bon, ça reste qu'un brassard, ça m'a jamais empêché de parler non plus, même quand Aurélien l'avait. Mais aujourd'hui, je pense qu'un gardien, on le voit avec Hugo Lloris, en équipe de France, s'il a le brassard, tout le monde les journalistes disent il est un peu introverti, mais en fait on ne sait pas comment il peut se comporter avec son groupe. Et donc du coup je suis persuadé que si Didier Deschamps lui donne le brassard, c'est qu'il doit avoir quand même quelques qualités quand on sait que Didier Deschamps a été le capitaine qu'il a été. Donc voilà.
Alors pour revenir sur vous, Florian, jamais 203, puisqu'après les deux montées que nous venons d'évoquer, vous bouclez une troisième accession avec Colomiers en 2013. C'est en national, ouais, cette fois-ci que vous accédez. Est-ce que ben justement cette montée, c'est la plus belle que vous ayez vécue ?
La plus belle, celle de DH en CFA2 était très importante pour le club, parce que c'est celle qui nous permettait de passer un cap. Après, effectivement, celle du CFA national, où là on change de monde en fait, elle est très belle. Pourquoi ? Parce qu'on a un groupe très jeune, où on se retrouve avec Martigues, avec Cannes, qui descendait de national suite à ses déboires administratifs. Et du coup, on n'était vraiment pas programmé pour être là, mais on était une sacrée bande de potes, en fait. Quand on se battait les uns pour les autres, et je me souviens de cette émotion contre Béziers, je m'en souviens très très bien, où on est mené 1-0, et on avait une équipe un peu à l'image du caractère de William Prunier, qui lâchait jamais rien, et je retrouve un peu ça avec Jean-René Badaracou à Pibrac, où un match, il nous a toujours inculqué ça, un match il est terminé lorsque l'arbitre siffle, et il reste un quart d'heure et on renverse une situation qui est très très mal embarquée, et on accède en national, et là c'est une joie immense, parce que c'est une des montées, par contre, les plus difficiles. En CFA, il n'y en a qu'un qui monte, il n'y en a pas deux. Et donc, sur la durée, quand vous êtes premier, c'est sur des niveaux aussi relevés que ça, c'est que ça veut dire quelque chose. Donc oui, c'est une des plus belles, en tout cas, c'est pour ne pas dire la plus belle.
Alors, il y a un premier chapitre qui se ferme pour vous en 2013. Vous raccrochez dans un premier temps les crampons pour privilégier la vie professionnelle. Florian, j'imagine que c'est une décision difficile à prendre, mais qui intervient au moment où vous montez en national. C'était un petit peu à ce moment-là, partir sur une dernière victoire.
Oui, mais comme vous l'avez dit, ouais, très dur parce que quand vous avez été là depuis la DH et que vous avez cette opportunité de revenir dans un monde semi-professionnel, quand vous avez été même jusqu'à la Ligue 2 avec Niort, quand vous le faites avec votre club, c'est vraiment un signe très fort. Et donc, après, malheureusement, il faut être conscient que le foot, et surtout dans le monde amateur, ça ne dure qu'un temps. Donc l'autre opportunité que j'avais, c'était effectivement de pouvoir professionnellement racheter mon entreprise et donc de pouvoir m'y inscrire. Et sur le long terme, je sais que c'est le meilleur choix qu'il fallait faire.
Mais vous partez entre guillemets sans partir, puisque vous allez évoluer avec l'équipe 3, c'est ça, durant la saison 2013-2014. Enfin, on fait appel à vous et vous acceptez la proposition.
En fait, on avait essayé avec William à l'époque de trouver un système qui me permettait de rester dans le groupe. Pour les raisons qui lui sont propres, hein, c'était compliqué pour lui et ça je le comprends. Donc il me dit un peu tard que finalement ce projet-là peut pas aller au bout. Et entre temps j'avais moi pu discuter avec Jean-Marie Stéphanopoli, avec qui j'avais des super échanges de football et c'était vraiment un très très grand plaisir de pouvoir discuter avec lui. J'avais eu d'autres approches et finalement quand cette annonce m'est faite assez tard, j'avais deux choix, soit j'arrêtais complètement, soit je continuais à jouer au foot à Colomiers. Et voilà, quand on m'a dit l'équipe 2, non, ça sera l'équipe 3, moi je suis personne pour dire que je peux jouer là ou là. Donc on me dit de jouer en équipe 3, je joue en équipe 3 et j'ai passé une super année. J'ai même marqué un but. J'ai même marqué un but.
Un retourné acrobatique.
Un but sur un corner face à mon ami Jean-Michel Lavatte, qui lui marquait sur coup franc. Donc voilà, j'ai passé une très très bonne saison aussi, parce que finalement, quand vous êtes un compétiteur, peu importe le niveau, après c'est d'essayer de marquer aussi, peu importe l'équipe, peu importe le niveau, ce que vous pouvez faire avec une bande de potes aussi, à d'autres niveaux différents, donc ça ne m'a absolument pas dérangé. Et c'est même très bien.
Et le lien avec la vie professionnelle, vous arriviez à gérer pour le coup ?
Oui, pour le coup, j'avais le droit de m'entraîner qu'une fois. Donc du coup, c'était plus facile. C'est le seul droit que j'avais en fait, où j'ai partagé avec Fabien Dulon la saison. Et c'était ainsi un très très bon moment. Et oui, effectivement, là, ça me permettait de pouvoir jongler sur les deux.
Et il y a les liens également avec Patrice Morel qui sont déterminants, puisque c'est cela, l'année suivante, il reprend l'équipe première et vous sollicite.
Alors d'abord il reprend l'équipe 2. Donc je suis en déplacement professionnel, mon téléphone sonne, je vois Patrice Morel. Et il me dit, voilà, je reprends l'équipe 2, j'ai besoin de cadre. Et à ce moment-là, donc, il demande à Vincent Latrille, à Greg Gomez et Thomas Bosenek de venir. Et bien évidemment, il me dit, je ne peux pas leur demander à eux sans te demander à toi. Et donc, il me dit, mais je comprends que professionnellement, ça, d'ailleurs, il faut toujours que je me méfie de ce qu'il me dit, parce qu'il me dit, je comprends que professionnellement, ça sera un peu compliqué, mais il y a des gardiens plus jeunes, on va trouver une solution. Et puis finalement, la solution, elle s'est trouvée que j'ai fait tous les matchs. Elle fait tous les matchs, mais j'en avais envie. Et puis, même sur les tests physiques de début de saison, les jeunes, on les mettait derrière. Et donc, c'était très, très intéressant parce que du coup, les jeunes comme Roméo Vena, qui joue aujourd'hui en équipe première, j'ai Jacques Coffi, Charles Bradjotti aussi. Voilà, j'ai pu aussi les accompagner en DHR en essayant aussi de leur inculquer le travail. Parce qu'on n'arrive pas, il ne faut pas croire, on n'arrive pas en CFA ou en National en claquant des doigts, ça n'existe pas. Donc voilà, et ça a été vraiment un super moment. Et d'ailleurs, on joue la montée jusqu'à ce qu'il se passe malheureusement les déboires avec l'équipe première, et qui fait que la moitié de l'équipe monte en équipe première. Mais du coup, c'était vraiment une très très bonne période, j'en garde un très très bon souvenir.
Alors la saison 2014-2015, c'est la dernière pour vous à Colomiers, c'est la dernière de Colomiers en national puisque le club descend en CFA après avoir été repêché, notamment l'année d'avant. Est-ce que c'est l'un des épisodes les plus compliqués pour vous dans votre carrière ?
Oui, parce qu'une descente, c'est jamais facile, quelle qu'elle soit, peu importe le niveau, c'est jamais facile. Et quand c'est votre club, après, quand on mérite de monter, on mérite de monter. Quand on mérite de descendre, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc pour nous, qui étions du CRU, ça a vraiment été un moment compliqué. Je pense à Nico Donnet, je pense à Ibou, à Aurélien Mazel, à moi-même. Avec ce goût, effectivement, d'inachevé. Je pense que des erreurs ont été commises. Mais là c'est sur l'ensemble du club et c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir analyser les choses différemment et essayer de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et je pense qu'avec ayant fait les choses un peu mieux, on aurait pu largement se sauver en national.
Alors avant d'évoquer votre passage à Pibrac, Florian, parlons de la relation que vous entretenez avec votre père Ahmed, donc qui est président du club de Colomiers de 2009 à 2014, ouais. Notamment, vice-président actuellement.
Oui, actuellement.
Alors de quel ordre elle était cette relation lorsque vous étiez joueur à Colomiers ?
Déjà, j'ai eu coach pendant un an, déjà aussi, quand je suis arrivé à Colomiers. La première année en DH, il était encore entraîneur avant de prendre la présidence. Moi, j'ai toujours été élevé de la manière où je devais rien à personne. Donc, je devais montrer. Donc, coach, tant que je faisais pas d'erreur ou tant que je faisais mes matchs, il pouvait pas me sortir. Ça, c'était mon leitmotiv. Ensuite, quand il a été président, la relation, elle est d'un père à un fils. La seule chose, c'est qu'on a rencontré des difficultés financières. Donc, le premier qui prend, c'est le fils. Donc voilà, et je n'en ai jamais voulu pour ça. J'ai jamais joué pour l'argent. Ceux qui me connaissent, ils le savent. C'est vraiment, moi, j'en fais vraiment j'ai toujours joué pour le niveau. J'ai toujours, quand on aime un club et quand on considère comme un enfant du club, c'est pas la première difficulté financière qu'on va voir ailleurs. Donc voilà, William Prunier me convoque, il me dit t'es le fils du président, tu prends moins de 30%, c'est comme ça, tu discutes pas. Je dis j'avais pas l'intention de discuter. Donc voilà, non, c'est une relation de père-fils. Il a jamais usé de quoi que ce soit, mais même au contraire, je pense que j'avais un père très dur. Et s'il avait fallu qu'il y en ait un qui saute en premier, je pense que je faisais partie du lot. Donc voilà, je faisais en sorte de rien avoir à sauter.
C'est en positive. Hein.
Voilà. Tiens,
voilà.
Merci Xavier. Mais oui. Confirmer.
Ah oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est très difficile en fait. Moi, j'ai coaché mon fils aussi, et c'est très difficile de savoir faire la part des choses, surtout quand on est... Parce que lui, il le voit du côté... parce que c'est son fils, mais moi, je le vois du côté en tant que père. Et c'est vrai qu'en plus, on a l'entraîneur, vu que son père était son entraîneur, a même des fois plus la pression que son fils, oui. Pourvu qu'il ne fasse pas d'erreur, parce que je vais être obligé de le sortir...
Moi, y a pas de choix.
Voilà, et donc je suppose que le fils, après, il se met la pression tout seul. Il n'a pas mis de décevoir non plus. Et ça fait que, en fait, c'est une pression positive, hein, et il n'a pas besoin de se la mettre tout seul, quoi. Il a d'entrée, quoi, la pression.
Alors, est-ce qu'avec le recul, Florian, vous pouvez affirmer ou non que votre père a influé sur vos choix sportifs ou professionnels à un moment donné de votre vie ?
Jamais. Non, j'ai toujours, sauf sur le poste de gardien de but, où là où j'ai un peu forcé la chose. Moi, je suis le second. J'ai un grand frère avec qui j'ai eu la chance de jouer. Ça, c'était sympa lors de mon passage aussi avec l'équipe 3. Quand on est le second d'une famille, en général, on voit le premier faire, et donc on s'adapte. Et moi, j'avais ce tempérament-là. Mon frère a été, mon père a été un peu plus dur sur la partie sportive avec mon frère. Donc moi, je savais un peu comment naviguer. Donc à part sur le poste, après. Il n'y a jamais eu, quand j'ai eu la possibilité de partir aux Fontaines en nationaux, il m'a jamais dit non, il m'a jamais, voilà, il m'a toujours accompagné dans mes choix. Et après, dans le choix professionnel, voilà, quand vous avez cette opportunité-là, c'est, comme on dit, c'est le choix des rois. Hein, quand vous avez le choix de racheter et la chance de racheter votre entreprise ou le choix de joueur national, ça ne se pose pas. Je lui ai dit, je privilégie. Il m'a dit, voilà, c'est même pas là, c'est le père qui parle. Et je pense qu'il a compris. Il n'y avait aucun souci. Il n'y a jamais eu jamais eu de souci par rapport à ça. Et même quand j'ai signé à Pibrac, il m'a dit, mais quand même, tu vas là-bas, c'est compliqué. Et voilà, j'avais envie d'aider Pibrac et de partager de très très bons moments avec eux, et voilà. Donc il a jamais pris part sur ça, jamais.
Alors, la première saison de Pibrac, durant cette première saison, le destin vous fait un petit clin d'œil, Florian, puisque 5e tour de Coupe de France, vous affrontez Colomiers, et juste avant, vous répétiez, voilà, vouloir tirer vos anciens partenaires, et c'était chose faite, pour le coup, un joli clin d'œil.
J'aurais presque aimé les éliminer, même. Voilà, on n'est pas passé loin, mais ça a été un très très bon moment. Ouais, un très très bon moment de jouer contre ses potes. Et voilà, avec mon père derrière, on a réussi à s'embrouiller pendant le match avec mon père.
C'est vrai?
Ouais, c'est vrai. Ouais, parce que c'est un joueur, mon père. Donc, du coup, il a fait 2-3 réflexions. Je lui ai demandé juste de se taire poliment. Mais c'était un clin d'œil, c'était un très 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 bon moment. Mais ça aurait été un meilleur moment si on avait gagné.
Alors, à l'issue de cette saison 2015-2016, encore une montée avec Pibrac, vous accédez en DHR. Mmh. Vous les collectionnez, les montées, décidément, Florian?
Ouais, je sais pas. Ouais, non, j'ai eu la chance toujours d'évoluer aussi avec des groupes, d'excellents groupes, donc, parce que sinon ça se saurait si quelqu'un faisait tout seul, ça marche pas. Donc j'ai eu la chance d'avoir des bons groupes. Effectivement, une montée supplémentaire, une saveur particulière, pardon, mais une montée quand même. Et croyez-moi qu'une montée avec Pibrac, ça vaut une montée avec n'importe quel club, parce que quand vous avez juste rien, en fait, et que vous avez juste la joie de jouer avec des ballons qui sont trop gonflés l'hiver parce qu'il fait froid et pas gonflés l'été, pas de terrain, pas de, voilà, c'est voilà, une très très belle expérience.
Alors cette saison, c'est la troisième pour vous. On peut dire que ça se passe plutôt bien. Vous êtes actuellement sur le podium avec 26 points, 2 unités derrière le duo de leaders, Caser et l'Union. C'est un beau parcours ?
C'est un très beau parcours. On n'était vraiment pas programmé pour être là. Mais avec ce club, en fait, il faut s'attendre à... Tout est possible. Voilà, il y a 2 points qui sont encore en suspens par rapport à des incidents qu'il y a eu à Séméac. J'espère qu'on pourra les récupérer pour au moins jouer la course jusqu'au bout avec toute l'équité. Voilà, j'espère que ça va statuer. Et maintenant, c'est du passé, on avance, mais il reste 2 points en suspens. Et on va se battre jusqu'au bout avec Tarbes, avec, qui revient, qui n'est pas loin, avec Caser, avec l'Union. Voilà, des belles équipes qui sont au-dessus de nous, hein, faut pas se le cacher. On a d'autres valeurs, donc voilà, on essaie de jouer avec nos valeurs.
Alors, on est obligé de poser cette question. Florian, est-ce que la montée est un sujet que vous évoquez dans le vestiaire, ou est-ce que vous êtes plutôt à la philosophie match après match et on verra ce qu'il en sera à la dernière journée?
À la méthode de William Prunier, qui, même contre Béziers, nous disait qu'on n'était pas monté. Qu'on jouait le maintien encore. Non. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut plus se cacher parce que ça serait prendre les gens pour des idiots. Donc, on y est. On n'était pas programmé. On y est. On sait qu'il reste 8 matchs. On va aller le plus loin possible. Après, on verra, mais en tout cas, qu'on n'ait pas de regrets. Et on va tout faire pour aller au bout. C'est une chance d'avoir 3 montées, parce que je pense que la 4e, avec les classements de malheureusement des clubs de la région en National 3, je pense que ça va bloquer la 4e montée. Enfin, le 4e, hein, le meilleur 4e, je pense que ça va la bloquer. Donc, on va tout faire pour être dans les 3. Si on y est, eh bien, ça sera un nouveau miracle, parce que là, ça sera un très, très gros miracle. Et si on n'y est pas, eh bien, on sera déçu. Mais surtout, il ne faut pas avoir de regrets, surtout.
Alors, il y a une statistique qui est à la fois intéressante, mais peut-être aussi préoccupante, c'est que vous êtes invaincu à domicile. C'est un quasi 100 fois toutes vos victoires, vous les avez remportées à domicile. Mais en deuxième partie de saison, vous allez justement devoir aller à Caser et à l'Union de Greg Soroche, qu'on a reçu d'ailleurs sur le plateau d'OxyFoot. Ces rendez-vous-là seront certainement les plus déterminants de la deuxième partie de saison.
Ah oui, très, très déterminant. Ça commence à Pamiers déjà samedi. À Pamiers samedi, ça va être un match compliqué, comme tous les matchs en DHR. Hein. C'est vraiment des matchs âpres, des matchs serrés. Pamiers qui avait fait une très très belle impression au match aller, qui ont des très très bons joueurs en plus. Donc voilà, c'est sûr que si on veut espérer quelque chose, il va falloir commencer à gagner à l'extérieur. Je sais pas ce qui se passe. En fait, vous me l'apprenez presque. En fait, si je savais qu'on n'avait pas été très performant, je savais pas qu'on n'avait pas gagné une fois. On a gagné à Semeira, qui ne s'est pas compté. Donc du coup, ça va passer par les matchs à l'extérieur. Mais vous savez, nous, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur, on préfère jouer presque à l'extérieur. Les terrains sont meilleurs. Mais du coup, on va faire en sorte. J'ai pas fait l'offense à Seb Baron de gagner à Blagnac, alors on va essayer de gagner à Pamiers.
Alors Florian, on a parlé de votre carrière et de votre saison sur la pelouse. On avait dit justement que lorsque vous aviez quitté Colomiers, c'était sur le terrain, parce que ça fait quelques années que vous officiez en tant que secrétaire général. Comment est-ce que cela s'est décidé ?
En fait, j'aurais bien voulu entraîner, je pense, mais ma vie professionnelle fait que c'est pas du tout compatible avec ce métier d'entraîneur. Donc du coup, quand on a eu des soucis il y a 2 ans lors de la descente nationale, le nouveau président Patrick Delacroix, qui fait un travail énorme, comme tous les bénévoles et tous les membres du comité directeur, est venu vers moi et m'a dit voilà, moi j'ai ces compétences là, mais j'ai pas les compétences terrain et foot, donc j'ai envie que tu m'accompagnes. Voilà, ce jour-là, vous savez, j'aurais mieux fait peut-être de me casser une jambe. Ça prend du temps, en fait. Ça prend du temps d'être secrétaire général d'un club comme Colomiers. Donc du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Ça me permettait de garder un contact et d'être présent, d'avoir un rôle à jouer côté administratif à l'US Colomiers. Et donc voilà, c'était pour moi aussi rendre un peu à ce club-là qui, pendant des années, m'a mis tous les moyens en place sur le terrain pour que je puisse m'épanouir. Donc c'est aussi rendre et essayer de faire la même chose pour les nouveaux qui arrivent.
Alors cet été, il y a eu une décision qui a fait un petit peu de bruit, on va dire, c'est le partenariat entre Colomiers et Montpellier. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode ?
Oui, sans aucun problème. Montpellier est venu nous voir. Et en fait, ils se rendent compte que depuis quelques années, beaucoup de joueurs signent régulièrement chez eux. Et donc, aujourd'hui, les difficultés financières que peuvent rencontrer aussi les clubs de l'élite, il n'y a pas que les clubs amateurs, les clubs de l'élite, ils cherchaient à se rapprocher d'un club formateur. Et dans la région d'Occitanie, parce que maintenant c'est une chance, ils ont mis le doigt sur nous. Et donc on s'est rencontrés et puis après ça a été une histoire d'homme avec José Gomez qui a été aussi à l'école de foot, qui a fait un très très gros travail sur l'école de foot Columérine à l'époque, Serge Delmas qui a aussi côtoyé Patrice Morel, et donc voilà, on a été reçus avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité, et ça a matché de suite, dans nos projets communs, dans ce qu'on pouvait faire ensemble. Donc à partir de là, tout naturellement, avec M. Nouzaré, avec malheureusement M. Nicolin qui est décédé, parce qu'il faut savoir que c'est lui qui a validé ce partenariat malheureusement juste avant qu'il décède, on s'est lancé là-dedans. Donc c'est un partenariat qui est en cours, qui se déroule plutôt bien. Et c'est aussi pour permettre aux jeunes formés dans notre club à pouvoir aussi de suite avoir un club professionnel sous la main qui est là au quotidien avec nous, dans des échanges soit avec les éducateurs ou directement avec les joueurs.
Alors Florent, difficile de parler de Colomiers sans évoquer la saison que le club est en train de faire, un énorme parcours en Coupe de France, une belle deuxième place en National 2, alors en plus en tant que secrétaire général, mais avec la carrière que vous avez eue à l'USC, il y a forcément une fierté aussi pour vous indirectement de voir ce superbe parcours.
Oui, beaucoup de fierté aussi de voir tous les enfants évoluer au quotidien. Ça, c'est important parce que 80% de l'effectif de l'équipe première a été formé au club. Et ça, c'est une fierté. En fait, ce n'est pas tant les résultats. Bien sûr que les résultats rendent fiers. L'équipe première, c'est la vitrine. Le parcours en Coupe de France a été exceptionnel. On n'avait jamais fait ça. Donc, effectivement, ça donne envie d'y revenir aussi. Mais c'est un travail à tous les niveaux du club, que ça soit du responsable de l'école de foot à 5, que Sébastien Da Silva, à Thierry Saint-Martin et Thierry Mano, jusque à Patrice Morel. Voilà, c'est un projet club qui est vraiment bien défini entre la direction et le sportif. Personne n'empiète sur les plates-bandes des autres. Et c'est voilà. Moi, je suis plus fier des résultats d'ensemble du club plutôt que seulement de l'équipe 1. Alors après, l'équipe 1 étant la vitrine, bien évidemment qu'on est content. Je préfère être second que dans la charrette, hein, c'est sûr. Mais voilà, le parcours en Coupe de France, c'est bien. On a l'équipe 2 qui, sauf catastrophe, va monter en DH. On a l'équipe 3 qui n'est pas loin. On a quelques difficultés sur les 19 ans nationaux. Les 17 ans se portent très bien aussi. Les 15. Voilà, c'est vraiment un club qui fonctionne bien. Et alors, on peut toujours améliorer des choses, hein, c'est sûr. Mais voilà, moi, je suis plutôt fier de cet ensemble-là plutôt que de l'équipe 1.
Alors, pour terminer, Florian, à titre personnel, on le répète, on sait ce que vous avez 33 ans.
Oui, c'est vrai.
C'est votre troisième année à Pibrac, la dernière,
c'est
sur
la
le
dernière.
Terrain.
Oui, ça sera. Si ma femme écoute la radio, il faut mieux que je dise que ce soit la dernière. Non, ça sera la dernière. Ça sera la dernière. C'est usant parce que professionnellement, j'ai beaucoup de responsabilités. Mon associé risque de m'assassiner aussi si je continue. Donc voilà, Xavier, c'est aussi de quoi je parle dans le boulot. Donc oui, ça sera la dernière. J'espère que Jean-René, lui, n'écoute pas. Parce que lui, par contre, il va faire sonner mon téléphone. Mais non, j'ai mon épouse aussi qui a un projet personnel. On a toujours vécu à travers moi. J'ai une petite fille aussi. Et voilà, c'est des moments aussi importants. Et je suis, par mon boulot, amené à beaucoup me déplacer. Plus après les réunions aussi en fin de semaine à l'US Colomiers. Les entraînements un peu, parce que Jean-René, il faut bien que je m'entraîne. Donc oui, ça sera la dernière.
Eh bien, Florent, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Alors,
merci,
on va passer
vous.
Maintenant à une interview un petit peu plus légère, un petit peu plus décalée. Voilà, Florian, d'entrée, si je vous dis Barça ou Real ?
Real.
OM ou PSG ?
Marseille.
Bayern ou Dortmund ?
Bayern.
Iker Casillas ou Gigi Buffon ?
Oh putain, pardon.
C'est pas grave, c'est pas grave.
C'est dur, ça.
Ah oui.
Allez, Buffon.
Hugo Lloris ou Steve Mandanda ?
Ouais, c'est pas possible.
Mais si.
C'est possible. Allez, Mandanda, parce que j'ai eu la chance de jouer contre lui. Il a failli mettre un but en plus.
Fabien Barthez ou Oliver Kahn ?
Sans hésiter, Barthez.
Manuel Neuer ou David De Gea ?
Allez, Neuer pour la carrière.
Christophe Revaux ou Alban Lafont ?
Christophe Revaux.
Si je vous dis Ali Ahmada ou Apoula Edel ?
Ah, mais... j'ai le droit de dire Xavier Bedos ou pas ?
Non, mais Apoula Edel, le problème, c'est qu'on ne sait pas son âge. Donc, vaut mieux choisir Ali Ahmada. Peut-être qu'il n'a pas
Ali
triché.
Ali Ahmada, alors.
Pep Guardiola ou José Mourinho ?
Pep Guardiola.
Rugby ou basket ?
Rugby, mais ma fille joue au basket. Rugby.
Tennis ou hand ?
Tennis.
Roger Federer ou Rafael Nadal ?
Roger Federer.
Thé ou café ?
Café.
Chocolatine ou pain au chocolat ?
Chocolatine, bien sûr.
Pizza ou McDo ?
Pizza.
Mer ou montagne ?
J'ai le droit à un joker, les deux, non ? J'avais pas le droit au ski quand j'étais au centre de formation, donc là, je me rattrape un peu.
Sud-Ouest oblige, on peut
valider.
Les deux, on peut
trop
valider.
Bien situé.
Allez, États-Unis ou Australie ?
États-Unis.
Italie ou Espagne ?
Espagne.
Blonde ou brune ?
Châtain.
Florian, coach de Colomiers, un jour, possible ou non ?
Tout est possible.
Pas impossible ?
Non,
pas impossible. Il faut pas que Monsieur Morel écoute, mais non, pas... C'est pas d'actualité.
La double montée Colomiers-Pibrac cette année, possible ou pas ?
Ah, très possible.
Si vous deviez coacher une équipe de Ligue 1, à part Marseille, pour le coup ?
À part Marseille, Monaco.
La vidéo dans le foot, oui ou non ?
Oui.
La France, elle peut la gagner, cette Coupe du Monde ?
Elle va la gagner.
Elle va la gagner, voilà. Eh bien, rendez-vous le 15 juillet, encore une fois, pour la réponse. On espère que vous avez raison, Florian.
Vous verrez, on remettra ça ici, si vous voulez.
Très bien, eh bien, le rendez-vous est pris. Alors, juste avant de passer au quiz, je vous propose une petite pause musicale, une musique qui est tout de même réputée, c'est Pirates des Caraïbes, musique d'entrée de Colomiers, c'est bien cela ?
Ouais, pendant des années, ouais.
Eh bien, voilà, je vous propose d'écouter ça juste avant le quiz sur Occitanie Première. Plein de souvenirs, Florian, cette musique.
Plein de souvenirs, ouais.
Plein de souvenirs.
Plein de souvenirs. C'était des... la musique d'entrée quand on rentrait pendant des années à Colomiers. Et plein de souvenirs. Ouais. Andrieux, un peu moins, parce qu'il n'y avait qu'une baffle, on ne l'entendait pas beaucoup. Mais à Capitani, c'était pas mal.
Bon, très bien. Messieurs, c'est le fameux rendez-vous de Doxyfoot, le fameux quiz. Que Xavier, apparemment, n'a pas révisé.
Ça, c'est ce qu'il dit. Hein.
On va voir ça.
Alors là, c'est fou de ne pas me croire, quand elle.
Ah mais c'est, après, c'est si dingue. Ça peut vous permettre de gagner, Xavier.
Les gens ne voient, voient pas, mais il a son téléphone à côté.
Oui, voilà.
Non, je ne touche jamais.
Bon, pour expliquer, Florian, bien évidemment, 10 questions.
Il y a une question sur Marseille encore, comme la dernière fois, on a essayé de me,
peut-être.
Me mettre une gambasse de première sur Hurtal. D'ailleurs.
Peut-être 10 questions. Si vous pensez avoir la bonne réponse, vous dites votre prénom. On est parti, messieurs.
Prénom d'abord ou réponse directe ?
Prénom d'abord. Alors, messieurs, si je vous dis que cette affiche, c'est quand même avec une saveur de Champions League.
Florian, Real PSG ?
Non.
Marseille-Paris ?
Non plus.
Ah, Atlético-Barça ?
Non plus.
Plus régional ?
Non, ça s'est passé. Ouais. C'est par rapport à un. On va dire, ça s'est passé vendredi. Vendredi midi, qu'est-ce qu'il y a souvent le vendredi midi ?
Vendredi midi, il y a apéro. Il y a apéro, non ?
Qu'est-ce qui se passe le vendredi midi ? On tire des boules dans un papier.
Tirage au sort, voilà. Tirage au sort.
Il y a un tirage au sort, finalement c'est une saveur de Champions League. Il y a eu un tirage au sort vendredi avec une affiche qui a donné une saveur de Champions League. C'était le tirage au sort de quoi vendredi ?
D'Occitanie.
Non,
il y a eu un tirage au sort de. Si vous voulez, messieurs,
vas-y,
il y a eu le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa. Et il y a une affiche.
Marseille Atlético Bilbao.
Non.
Milan Arsenal.
Exactement. Ah, voilà.
Ligue Europa.
Et oui, le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue Europa qui a livré l'affiche entre Milan et Arsenal. Voilà, c'est un match qui rappelle forcément des confrontations en Champions League entre ces deux clubs, notamment la dernière, messieurs, 2012. Hein, le Milan avait gagné 4-0 à l'aller. Et les Gunners, ils sont habitués à faire ça, être à deux doigts de faire la remontada, mais ils ne l'ont pas faite. 3-0 au retour. Voilà, donc c'était Milan.
La Ligue Europa, je regarde qu'à partir des demi. Moi. Je comprends pas.
Surtout aussi pour Paris.
W9, il y a.
Ah ouais, je regarde pas. Et puis les commentaires, là, je peux me suicider à tout moment si je regarde un match.
Premier point pour Florian.
Bien joué.
J'ai l'impression.
Deuxième question. Alors lui, on peut vraiment l'appeler Monsieur Caviar.
Monsieur Caviar.
Thauvin.
Neymar.
Non.
Non. C'est en Angleterre.
Non.
Non, en Espagne.
Oui.
Ah, c'est Benzema.
Close.
Non.
Cross, ouais, c'est non. Ça que je voulais dire. En fait,
oui, Close, il joue plus.
C'était Cross, en fait. Modric.
Non plus.
En Espagne, c'est...
Lionel Messi.
Eh oui.
Et voilà.
Et oui, 148e passe décisive ce week-end, à l'occasion d'un nouveau service.
Comment je peux louper Messi ?
Eh oui, il n'y a pas Marseille, mais il y a le Barça, Xavier.
C'est fou. En Espagne, il faut dire Messi, et puis t'es sûr d'avoir tous les records.
Et voilà, il a battu le record de Michel. 148 passes décisives pour Messi. Bon, il rentre un petit peu plus dans l'histoire du championnat espagnol.
S'il en fallait un peu plus.
Si,
voilà. Messieurs, troisième question. Le River Plate de Marcelo Gallardo a été battu par le Vélez de qui ? Qui coach Vélez ?
Vélez
si
Sarsfield.
Je vous parle de Gallardo, c'est que.
Ouais, il doit être. Qui jouait milieu de terrain avec lui là, à l'époque ?
Gambiasso.
Alors, c'était pas un milieu de terrain, mais c'est une légende de
Avance,
la Ligue 1.
Batistuta.
Non.
Ah non, Crespo.
C'est une légende de la Ligue 1 qui ne jouait ni attaquant, ni milieu.
Légende de Ligue 1 ?
Oui, enfin une.
Chilabert ?
Non. un joueur qui a vraiment marqué
ça,
quand même.
Peut-être qu'il est mort, Chilabert. Ou non, peut-être qu'il est. Je sais pas, il a été. Il est dans les.
Il a joué à Lens quand même.
À Strasbourg.
Ouais, Strasbourg. Mais on n'a toujours pas trouvé la réponse.
Non.
Un Argentin.
C'est un Argentin qui a joué en Ligue 1.
Quel club ?
Carlos Bianchi.
Ah, non, je peux même vous dire qu'il a joué à Marseille et Paris.
À Marseille et Paris ? Valdo ?
Non.
Ravanelli ?
Non.
Mais non, c'est un Argentin.
Un Argentin. Marseille et Paris ?
Il a joué
les deux.
Dans l'ordre plutôt.
C'est pas Fiorez.
Non. Heinze.
Eh oui,
Gabriel
Heinze.
J'ai pas été bon là.
Duel entre ancienne légende de Ligue 1 qui a tourné à l'avantage du champion de France 2010.
Même pas qu'il est entraîneur.
J'ai que 33 ans.
Et Carlos Bianchi a entraîné Vélez Sarsfield. Je crois qu'ils ont même été champions.
Et là, pour le coup, c'est Xavier qui ouvre son compteur. Deux, en quatrième question.
Il n'est pas Fanny ce soir. Voilà.
Messieurs, les deux prochaines questions, c'est un petit clin d'œil par rapport à un film qui est assez connu.
Ah, mince.
Si je vous dis, tu peux stopper un pénalty, mais pas deux.
Les collègues.
Non. C'est par rapport à un gardien qui, pour le coup, tu peux stopper un pénalty, mais pas deux.
Et c'est un film ?
Non. Ah, c'est non, pas non, un film. C'est, on va dire, c'est tourné comme ça, mais c'est par rapport à un gardien manifestement qui a stoppé deux pénaltys ce week-end.
Ce week-end
J'en ai vu un.
Contre, je sais que la semaine dernière, Rennes, il en a stoppé deux à coup d'aide.
Ah, mais c'est.
Un Ligue 1 qui a arrêté deux.
Non.
Ah, pas un Ligue 1, ouais, c'est ça.
Non, c'est. Qui c'est qui a arrêté deux pénaltys là?
Alors, franchement, je l'ai pas.
Si, si.
En Espagne?
Oui.
Black là? Non, celui de l'Atlético Madrid, non, c'est pas lui. Au Black, voilà.
C'est pas. Voilà. Je l'ai vu en plus, je crois qu'il en a arrêté deux.
Il en a arrêté un à droite, un à gauche.
Un à droite, un à gauche.
Ouais. Et il a, pour le coup, j'ai il a sauvé ça, son équipe qui devait absolument s'imposer.
Florian, t'es gardien.
Ah ouais, non,
tu dois les connaître quand même en Espagne.
J'ai trop de boulot. Quel club?
Espagne.
Alors, le club?
Ouais,
c'est un club qui joue en jaune. Qui joue en
jaune. Villarreal, le club de Villarreal. Ouais, c'est. Neto,
non,
c'est
non.
Bento.
Bon, il a trouvé le club, on peut lui accorder. C'est Sergio Asenjo, qui a été le grand héros de Villarreal dimanche. Le portier du sous-marin jaune a arrêté deux pénaltys, une fois à droite, une fois à gauche. Ça et voilà, il y avait 1-0. Donc on peut dire que ses interventions ont été capitales.
Est-ce
justement,
qu'il a choisi, là, tu vois, de partir une fois à droite, une fois à gauche?
C'est une question que je comptais poser à Florian, pour le coup. Comment est-ce que vous abordiez, vous, quand il y avait un tir au but? Est-ce que vous disiez, avant que le tireur prenne son élan, bon, je vais partir à droite ou à gauche, ou que vous attendiez le dernier moment? Si c'est toujours un exercice particulier.
Si je vous le raconte, vous n'allez pas me croire. Je préparais mes matchs, donc il y avait des vidéos, moi, quand même, quand j'allais bien. Et je disais un côté à mon épouse, et elle me disait comment elle le sentait.
C'est vrai? Ça fonctionnait souvent?
Et ça fonctionnait assez régulièrement, ouais.
Oh ouais,
assez régulièrement. Et donc voilà. Alors après, si vraiment je le sentais pas de ce côté-là pendant le match, je partais pas, mais elle était au courant de où j'allais partir. Et mes séances de pénalty étaient, quand j'ai eu la chance de pouvoir faire pas mal de séances et sur des montées, ma série était faite à l'avance aussi.
Ouais.
Et toujours la même.
Toujours.
Toujours la même.
Toujours, toujours.
Et s'il y a trois d'un côté, tu pars et deux de l'autre.
Ouais, j'avais ma série. Je peux pas la donner là. Ouais. Pas encore.
Pas encore. À la fin de
l'année. J'avais ma série. Je l'ai fait par Rémi Goril. Donc si un jour il veut la faire, je peux pas la donner.
Rémi Goril, exactement. Et bien de partout pour le coup. Cinquième question.
Je laisse
messieurs.
Revenir.
Ouais, cinquième revient. Question, messieurs.
Je me demande si je vais tenir la distance.
Tu peux rater une touche, mais pas trop.
Aurier. C'est un scandale.
Alors là, oui. Eh oui. Alors là,
j'ai
tout
même
de suite,
pas vu, j'en ai entendu parler.
Ah oui, c'est Serge Aurier.
Et plus le but qu'il a raté. Hein.
Battu un bien triste record en Première Ligue ce week-end, puisque l'ancien latéral parisien a en effet manqué trois remises en jeu pendant la rencontre entre les Spurs et Crystal Palace.
Qu'est-ce c'est du jamais fait, vu. En fait, bah, il a raté loupe
trois,
comment
trois, bah, il, à chaque fois, il se.
Il la lance. Ils ont fait refaire la touche?
Ah non, non, touche à l'adversaire.
Ah non, faire trois fois, il le donne à l'adversaire.
Ah d'accord.
Une touche, il le donne. Une touche, il le donne. Il a raté un but immanquable aussi.
Voilà. Heureusement qu'ils ont gagné 1-0, parce que je pense que pour le coup...
C'est Pochettino, il a dit qu'il il va le faire virer à force de faire des touches à l'adversaire.
Sixième question, messieurs. Santé, mais pas trop.
Santé, mais pas trop.
La santé.
Santé, ouais.
Santé, santé ou ça
Ah, bon, vas-y.
Santé en un seul mot, hein.
Ouais.
S-A-N-T-E. Santé, mais pas trop. Mais c'est par rapport à un gardien de but.
Ah. Lopez, non?
Non. Ça s'est passé en D2 allemande.
Ah ouais, non. J'ai pas le temps de regarder la D2 allemande.
Non, dans le sens pas. Où, si je vous dis santé, qu'est-ce qu'on fait quand on dit santé souvent?
En bois vert.
Ah oui, c'est un gardien qui a pris un but en buvant un coup.
Exactement.
Sur le côté.
Et oui, Marc Flickel, qui est gardien de Duisbourg en D2 allemande, il a eu la mauvaise idée d'aller boire un coup dans ses buts en pleine rencontre, alors son équipe était en train d'attaquer, sauf qu'Ingolstadt a récupéré le ballon, et le gardien néerlandais, il a juste eu le temps de voir l'attaquant adverse pousser le ballon dans le but, avant qu'il puisse intervenir. Voilà. Donc l'image est très
c'est
très
des vraies infos.
Ah oui, c'est vrai. Il y a la vidéo qui tourne sur Internet.
Je vais aller voir ça.
Voilà. Bon, c'est une bévue sans conséquence, puisque Duisbourg s'est quand même imposé 2-1, mais bon.
Ah oui, quand même.
Voilà. Pour le coup, non, l'image est très très drôle. On le voit, il est voilà. Il est un petit peu accroupi. Il sait pas trop quoi faire pour le coup, mais.
Je me voyais faire ça avec Prunier, j'aurais fini la poubelle.
Il y a des trucs qu'il faut pas faire.
Ah ouais, non. C'est
3 partout, messieurs.
3-3.
Septième question. Pourtant, il a tout essayé.
Pourtant, il a tout essayé.
Ah, il a tout essayé. Mais il est pas arrivé.
En France?
Non, en Espagne.
En Espagne.
Suarez.
Pour
ouais,
qu'est-ce qu'il a pu faire?
Ah non, c'est pour prendre un carton jaune.
Voilà, ça c'est ce qui arrive souvent, c'est un caviar. Voilà.
Il me fait une passe décisive là, sur le Barça.
Voilà.
Il fallait juste trouver le nom.
Ce qu'il a fait.
Ah merde.
C'est pour ça.
Et oui, c'est pour ça. Alors bon, là pour le coup, j'ai vu le match.
Oui,
forcément. Voilà, j'ai vu le match. Mais il n'y a pas que lui. Il y a Jordi Alba, il a fait. Lui, il a eu le jaune. Ouais. Mais c'était, bon, c'était affreux. Ouais, parce qu'il a,
Suarez, il fait vraiment deux avant-gardes.
Il voulait à tout prix prendre un carton jaune
pour être suspendu. Voilà. Voilà.
Et parce qu'après, il devrait être suspendu deux matchs.
Et il n'y a pas. L'arbitre, il n'y a pas donné.
Et pourtant, il fait deux très très vilaines fautes. Il fait vraiment tout. Pour le coup, il fait tout.
En plus, je crois qu'il a fait un triplé. Il a levé son maillot. Ils n'y ont même pas mis un jaune. Alors que des fois, il va juste faire ça.
À Pibrac, on a Benoît Rella qui fait ça. Ouais, c'est très connu du foot
pour
amateur.
Avoir des jaunes.
Ouais, il a demandé à l'arbitre la dernière fois de lui mettre, il lui a mis, ça lui a permis d'être suspendu.
Voilà. Mais des fois, il suffit juste de demander en fait. Hein.
Ouais, je sais pas si le président de Pibrac l'a fait payer l'amende, mais il faudrait que je lui demande. Tiens.
4-3 pour Xavier, il reste 3 questions, messieurs. J'ai longtemps hésité à te refaire le portrait. Qui c'est qui a dit ça?
C'est pas. Ah si, c'est pas... Assou et Koto.
Oui.
Avec ah oui, Cazard.
C'est Assou et Koto, le défenseur de Metz qui a écrit une lettre à...
Il a dit que ça sert de le regarder. Ouais,
Julien Cazard, qui a l'habitude de le faire passer pour un dealer lors de ses interventions sur J+1 et le Camerounais.
Par contre, il s'est bien chauffé avec Mbappé, là, Assou
oui,
et Koto.
Oui, oui, oui.
Et d'ailleurs, il a dû arrêter l'abonnement de sa maman.
Exactement. Oui, exactement. Voilà, il commence à se poser quelques questions. Mais c'est vrai que... Parmi les imitations de Cazard, celle-ci est l'une des plus drôles.
Elle est pas mal.
C'est vrai qu'elle est pas mal du
tout.
Elle est pas mal du tout. 5-3, balle de match pour Xavier.
Balle de match.
Balle de match, exactement. Voilà. Alors, à trop vouloir toucher du bois, il s'en mord les doigts.
Colomier contre Tarbes.
Hein, non, ça
parce qu'on a touché du bois.
Bordeaux, ils ont tapé 3 fois.
Bordeaux, 4 même.
Bordeaux, 4. Et oui, 4. Les Girondins de Bordeaux qui ont concédé le nul 4 fois. 0-0. Il y a eu un Benitez de Gala dans le but des Aiglons, mais surtout 4 poteaux touchés par les Bordelais qui sont décidément un gros manque de réussite.
Dom Bayes aussi sur le poteau. Ouais. Bayes qui revenait.
Eh bien, voilà.
Comment ça se fait? Alors là, par exemple, tiens, Florian, pour toi, c'est quoi le meilleur gardien en Ligue 1 en ce moment?
En ce moment, le meilleur gardien, Steve Mandanda.
Ouais.
Et je le dis avec toute
sûr.
Sûr. Oui, non, il y a pas de parce que j'aime bien Marseille, mais aujourd'hui si Marseille en est là, c'est qu'ils ont aussi un grand Steve Mandanda. Après il y a j'ai eu la chance de jouer contre Lopez aussi, qui est beaucoup décrié mais qui est je trouve un très très bon gardien aussi.
OK. Eh bien, je crois que c'est une victoire pour Xavier du coup. Ouais. 6-3.
Il m'a dit de le laisser gagner.
Qui n'avait pas réalisé. Alors on va faire la dernière question.
Ouais, histoire pour le fun.
Pour le bonus. Alors messieurs, hier a eu lieu le classique de la Ligue 1, une large victoire du PSG, 3-0. Alors oui, les Parisiens ont déjà mis une fessée à leur rival l'an dernier au Vélodrome, mais la dernière victoire 3-0 au Parc, elle remonte à quelle année?
Je l'ai entendu ça.
Elle remonte à je crois 2003.
2009?
Non,
plus
ah ouais, plus loin.
Avant.
2007.
98, 99.
Non, plus tard.
Ah, 2008.
Non.
Ah, 2012 avant.
Du coup entre 98 et 2007, c'est les deux que vous avez.
2002.
Dit. 2002.
Ah, j'ai entendu, il y avait lundi à la télé.
Le 26 octobre 2002 avec un grand Ronaldinho.
Ouais, voilà. J'ai entendu. Oui, c'est là où il a émis le but qui était tout seul.
Le PSG.
Ah, mais attends, là tu me parles de quand?
Habib Bey.
La dernière victoire du PSG 3-0 sur l'OM au Parc.
Ouais.
Au Parc. Ah oui, d'accord.
Voilà. Okay. Et c'est en 2002, c'est Ronaldinho.
Parce qu'il y avait eu la branlée aussi au Vélodrome.
Oui,
avec Ronaldinho.
Oui, 3-0 aussi. C'était l'époque où Paris mettait à chaque fois. Il n'y avait pas de suspense. Il y avait 3-0.
Il avait fait pareil au Real, Ronaldinho, avec le Barça aussi. Mmh. Il avait été l'un des seuls joueurs sorti à applaudir.
Exactement. Et le PSG, qui avait à l'issue de cette rencontre, d'ailleurs, du 26 octobre 2002, pris les commandes de la Ligue 1. Bon, hier, ils ont juste fait prendre 14 points d'avance maintenant.
Que confirmer.
Sur Monaco. Donc voilà, victoire pour Xavier. Merci beaucoup, Florian, d'avoir accepté notre invitation. Vraiment. Et puis bonne dernière saison à Pibrac, en espérant même la montée, les doubles montées avec Colomier et Pibrac. Vous avez dit que c'était possible. Vous avez dit que
signe.
La France, double montée, double prime, double paye, double apéro.
Alors, double apéro avec grand plaisir. 2x0 à Pibrac, ça fait toujours 0. Et parlez pas de choses qui fâchent avec les joueurs de Colomier.
Merci beaucoup Xavier, merci Florian, merci Jean-Louis Arzac à la réalisation. Quant à moi, je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour la 15e édition d'OxyFoot. Salut tout le monde. Sitting up a little straight up.
And I know that you want.